Mesdames, messieurs, nous allons atterrir dans quelques instants. Il est prévu une escale de 35 minutes. Nous espérons que vous êtes satisfait de ce vol. Merci.
Amis auditeurs, bonsoir, bienvenue à l'écoute de Chemin de Traverse, notre petite escapade hebdomadaire. Ce soir, nous continuons notre série Mouvements et Traces que nous avons entamée la semaine dernière de la main de Sébastien Gasque, historien et membre scientifique de la Casa Velázquez, par un détour au premier temps de la conquête arabo-musulmane de la péninsule ibérique. Aujourd'hui, nous revenons au XXIe siècle et nous allons plonger dans le monde de l'immigration féminine latino-américaine en Espagne. Un travail qui nous est proposé par Vanessa Rousselot, membre cinéaste de la Casa Velázquez pour 2012-2013.
Mouvement et traces.
Écoutez,
comprendre,
imaginer,
raconter l'immigration.
Une émission proposée par Radio Exterior d'España et la Casa de Velázquez.
Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Mouvements et Traces. Je suis Vanessa, l'un des membres du groupe de la Casa Velázquez qui travaille tous sur l'émigration, mais chacun d'une manière différente. Moi, je suis cinéaste et je prépare un documentaire ici avec les femmes latino-américaines qui travaillent à Madrid dans les maisons et qui vivent chez les employeurs pour qui elles travaillent. Alors aujourd'hui, je vais essayer, comme on le fait tous dans cette émission, de raconter comment on travaille, qu'est-ce qui nous distingue. Moi, c'est un documentaire. Je vais vous pitcher, comme on dit en jargon documentaire, le film sur lequel je travaille. Ce film, pour l'instant, il s'appelle En Casa, c'est son titre provisoire à la maison. Et c'est un voyage intérieur, c'est un voyage dans la vie intérieure de plusieurs femmes dont l'existence est suspendue, gelée, à l'arrêt. Habité depuis plusieurs années, moi, par ces destins de femmes latino-américaines qui ont quitté leur pays, leur famille, leur maison, j'ai décidé de poser mon regard sur celles qui, pour faire vivre leurs proches, s'occupent des enfants et des parents des Espagnols. Elles travaillent de 8h à 23h, elles vivent chez les particuliers qui les emploient. Elles sont internas, muchachas, chachas. Donc peut-être pour vous raconter un peu qui sont ces internas, d'où elles viennent, je vais vous en dire quelques mots. Elles viennent d'Argentine, de Bolivie, de Colombie, d'Équateur, du Mexique, du Paraguay, du Pérou. Et voilà, tout à un moment, elles ont décidé, pour faire vivre leurs proches, de partir et d'aller s'occuper d'autres personnes. Madrid, il y a environ 200 000 latino-américaines avec des papiers qui travaillent dans des maisons. Ça, c'était un chiffre qui datait de 2007. Aujourd'hui, beaucoup de gens repartent, donc il y en a moins qu'avant. Mais en Espagne, c'est un phénomène qui est très courant, qui touche la... Il y a des personnes de la classe moyenne qui ont quelqu'un chez eux comme interno. Et c'est pas nécessairement des gens très riches. Alors, être interna, c'est apprendre à faire le cocido et la tortilla à la manière de la maison. Et puis, c'est aussi savoir que perdre son emploi, c'est aussi perdre son logement, puisqu'on est logé chez son employeur. Peut-être vous dire aussi que le salaire minimum ici en Espagne d'une interna, c'est 750 euros. Et c'est des gens qui font ce choix en se disant, voilà, je vais être logé, donc je vais dépenser moins d'argent, donc je vais pouvoir envoyer tout l'argent. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'une vie suspendue, gelée, à l'arrêt. L'idée, c'est de se dire, je me sacrifie, et pendant ce temps, je fais vivre d'autres gens. Et puis, cette durée en Espagne, eh bien, elle est conditionnée par mille choses, par les besoins des proches. S'il y en a un enfant qui fait 5 ans d'études, eh bien, il faut travailler 5 ans jusqu'à ce qu'il arrive à avoir son diplôme. Souvent, c'est pour payer une éducation, pour payer un traitement médical. Voilà. Donc, il y a des femmes comme ça qui croient qu'elles viennent pour un an et puis finalement le fils décide de changer et d'étudier autre chose qui dure 3 ans de plus et du coup il faut que ce sacrifice dure 4 ans de plus.
Il
Je vais ici vous proposer d'écouter des différents extraits de tous les témoignages que j'ai récoltés. J'ai été dans les paroisses, dans les associations, sur les places des quartiers où se réunissent ces femmes latino-américaines. J'ai, à force de traîner mes guêtres, j'ai parlé de mon projet à plusieurs femmes et puis j'ai découvert avec bonheur que finalement elles ont le sentiment d'être invisibles, le sentiment de ne pas être entendues et donc qu'elles avaient même, elles n'étaient pas non seulement d'accord pour témoigner, mais elles avaient envie et même besoin de témoigner. Finalement, toutes ces femmes ont vécu différentes étapes, mais qui sont les mêmes étapes, c'est-à-dire le fait un jour de partir, le fait de travailler, le fait de vivre avec ses employeurs, d'élever des enfants, les siens à distance, les enfants de ses employeurs au quotidien, et puis en permanence cette manière d'imaginer son pays, tous ceux qui sont restés là-bas, et puis toutes ces images que font naître la distance, et puis toute cette expérience tellement radicale les fait changer radicalement aussi. Donc je vais en fait vous emmener dans un voyage avec les différents témoignages que j'ai récoltés, puisque le désir que j'ai dans ce film, c'est de raconter la vie intérieure de ces femmes-là, c'est-à-dire tout ce qu'elles ont en elles toute la journée, mais qu'elles ont rarement l'occasion de formuler. Donc on va commencer par écouter un témoignage d'une femme qui s'appelle Lucía, qui raconte le jour où elle est partie.
Cuando yo le tuve que decir que iba a venir, sí, para él fue muy dura.
Quand j'ai dû lui dire que j'allais partir, ce fut très dur pour lui. Au début, il a dit oui. Moi, j'aimerais avoir un ordinateur, une maison plus belle que la nôtre. Mais quand arriva le moment de lui dire « je pars demain », ce fut le plus dur. J'ai dit toujours que le moment que jamais personne ne publiait, c'est quand tu le laisses et tu pars. Moi, je l'ai laissé à l'école.
C'est quand tu le laisses et tu viens. Lo mío fue dejarla en el colegio.
Et on va continuer avec le témoignage de Marina, qui raconte comment est-ce qu'elle imaginait ce grand voyage qu'elle allait faire vers l'Espagne.
Pero luego, a la hora decisiva, pues sentí...
À l'heure décisive, j'ai ressenti une sorte d'étouffement à l'idée de partir si loin pour si longtemps. J'avais l'impression que pendant un et demi, ma vie allait se congeler et que seulement en rentrant chez moi, je recommencerai à vivre. Je me disais, je vais me forcer à oublier tout ce que j'ai. Par exemple, j'adore le chocolat et bien je ne vais pas en manger pendant 2 ans.
La plupart, quand elles arrivent en Espagne, de ce qu'elles m'ont raconté, elles trouvent assez vite du travail. Alors, sachant que c'est des gens qui sont arrivés, tous ceux avec qui j'ai parlé, qui sont arrivés il y a plus d'un an ou deux, et puis qui évidemment arrivent tous sans papier, donc sont prêts, une fois qu'ils arrivent, à accepter n'importe quel travail, dans n'importe quelle condition, avec n'importe quel salaire. Tout à l'heure, je parlais du salaire minimum officiel, qui était de 750 euros, mais évidemment, il y a les gens qui sont sans papier, bon voilà, là, il n'y a plus de salaire minimum. Alors je vais vous faire entendre le témoignage de Myriam qui raconte un tout petit peu quel est le rythme de son travail. C'est une vie qui est rythmée avec énormément de contraintes, d'horaires. Voilà, je vous laisse écouter Myriam.
Hay que cocinar, hacer la habitación, hacer el baño. A las dos, a la una come la niñera.
Il faut cuisiner, nettoyer la chambre, la salle des bains. La nounou déjeune à 13 heures. Moi, je déjeune à 14 heures. Et eux, ils déjeunent à 14h30 jusqu'à 16h. Parfois, je déjeune en même temps qu'eux, et du coup, je me lève 30 fois en mangeant. Ce qui est stressant, parce que tu ne petit déjeune, ni une déjeune, ni une dîne jamais tranquille. Je ne peux pas manger avant parce que la nourriture n'est pas prête, et je ne peux pas manger après parce qu'il est 18h.
Parce que je ne peux pas manger avant parce que non est la comida, je ne peux pas manger après parce que vont être les 6 de la tarde.
Voilà, peut-être vous dire que en ayant travaillé avant sur d'autres films avec d'autres gens dans d'autres domaines, j'ai jamais eu affaire à des gens aussi occupés que les gens qui travaillent comme internos en Espagne. En général, le week-end commence le samedi à l'heure du déjeuner, se termine le dimanche soir, et voilà, ce court temps de liberté est très précieux puisque c'est celui pendant lequel ils peuvent peut-être, s'ils n'ont pas d'ordinateur sur leur lieu de travail, aller parler avec leur famille, retrouver des gens de leur pays, de leur village, en fait vivre un peu à leur propre rythme et non pas au rythme de quelqu'un d'autre. Alors, il y a évidemment des des expériences extrêmement différentes, aussi bien des gens qui vivent une relation très, très, très belle, très satisfaisante avec les gens qui, pour qui ils travaillent, et puis d'autres plus difficiles, évidemment. Je vais là vous faire écouter le témoignage de Rosa, qui, elle, est peut-être l'une des personnes avec qui j'ai parlé, qui vit ça de manière la plus difficile.
Souvent, quand je parle avec mon mari, il me demande « Où es-tu ? » Je suis dans ma cellule punitive, c'est-à-dire dans ma chambre. Pour moi, c'est la même chose. C'est cela ma vie.
Être interno, être interna, c'est vivre 24 heures sur 24 avec des gens. C'est être partagé toute leur intimité, finalement comme si on était presque un membre de la famille, sauf qu'on ne l'est pas. Et à ce sujet, je vais vous faire écouter le témoignage de Juanita, qui parle des relations avec son patron chaque matin au réveil.
Yo al señor le saludaba todos los días al levantarse. Buenos días, señor, ¿cómo está usted?
Le monsieur, je le saluais chaque matin, je lui disais « Bonjour monsieur, comment allez-vous aujourd'hui ?» Il répondait « Bien » et il partait. Un jour, sa femme me dit « Juanita, quand monsieur se lève, il ne faut pas lui parler parce qu'au réveil, il ne veut pas parler. Du coup, tu sais ce que j'ai fait ? Je me lève pour lui préparer son café au lait, je lui laisse sur la table, et moi, je m'enferme dans ma chambre pour boire mon maté. J'en sors seulement quand il s'en va parce que je ne sais pas comment le croiser sans lui dire bonjour.
Il y a beaucoup de gens à Madrid qui travaillent en faisant des heures et voilà, j'en ai rencontré aussi beaucoup dans tout le terrain que je suis en train de faire. Moi, une des choses qui me semble les plus intéressantes dans la vie de l'interno pour un documentaire, c'est que finalement, quand la journée se termine, les gens en général dorment sur place et donc restent sur leur lieu de travail. Et c'est ça qui c'est tout cet espace finalement qui fait naître beaucoup d'images mentales du pays dont on vient, de sa propre famille. Et je vais vous laisser écouter Alicia qui raconte justement ce que c'est pour elle que être interna et rester toujours dans le même lieu chaque soir.
Parfois, ma patronne m'a dit que j'ai hâte d'arriver à la maison. Elle rentrait souvent tard. C'était une femme qui travaillait beaucoup. Je vais arriver à la maison et être avec mon fils, disait-elle. Et moi, je pensais, et moi, où je peux bien aller? Travailler comme un domestique, c'est dur. On travaille toute la journée. Jusqu'à tard.
Vous dire peut-être que les témoignages que vous venez d'entendre sont un peu durs, mais j'en ai aussi d'autres qui le sont beaucoup moins. Beaucoup de gens qui finalement, en étant partis pour faire vivre leurs parents, pour faire vivre leurs enfants, eh bien les personnes dont ils s'occupent en Espagne, beaucoup s'occupent de personnes âgées, ils s'en occupent comme ils aimeraient pouvoir s'occuper de leur père ou comme ils aimeraient pouvoir s'occuper de leur mère. Et là, il y a une extraordinaire complicité qui se crée. Ça, c'est quelque chose qu'on verra aussi dans le film qui est en préparation, En Casa. Il y a aussi une relation extraordinaire de complicité qui se crée évidemment avec les enfants espagnols dont ils s'occupent et dont parfois les enfants passent plus de temps avec l'interno ou l'interna qui est à la maison ou qu'avec leurs propres parents. Et voilà, ça crée une immense complicité. Et en parallèle, s'ils passent plus de temps avec ces enfants-là, en restant 3 ans, 5 ans, parfois 6 ans, parfois même plus, sans voir leurs propres enfants et sans les voir physiquement. Mais là, comme dans le cas de Rosa qu'on va écouter, c'est aussi sans même les voir en photo. Je vous laisse écouter Rosa.
El mes pasado, mi niño hizo su primera comunión.
Le mois dernier, mon fils a fait sa première communion et cela faisait très longtemps que je ne le voyais pas, ni même en photo. Je lui ai demandé de m'envoyer des photos sur Facebook pour que je puisse les voir. Quand je commençais à regarder, j'ai ressenti une telle tristesse. Parce que moi, je me représente mes enfants comme ils étaient la dernière fois qu'on était ensemble. Je ne pense pas qu'ils seraient si grands. Mon fils, qui a 11 ans, est gigantesque.
Mi hijo, el que cumple 11, es enorme.
Alors, vous dire que j'avais rencontré Rosa juste avant qu'elle rentre dans son pays au Paraguay. Donc maintenant, à l'heure où on parle, ça y est, elle est avec ce fils dont elle parle, qu'on vient d'entendre. Rosa a des témoignages spécialement dramatiques. Tout le monde n'est pas dans le cas de Rosa. Il y a en particulier les Équatoriens qui, eux, en général, sont commencés à arriver en Espagne il y a 20 ans. Et du coup, là, il y a des femmes qui travaillent dans des familles et qui ont plus un statut de gouvernante, enfin, qui sont réellement devenues un membre de la famille, qui sont restées 15 ans, 17 ans à éduquer des enfants. Et là, on sent que le lien qui a été créé existe certainement pour toute la vie. Je vous laisse écouter Maria Carmen de Ecuador.
Un jour, lorsqu'il avait 6 ou 7 ans, il me dit « Tata, pourquoi moi? J'ai pas de nounou ?» Je réponds « Mais c'est moi ta nounou. » Et je ne savais pas, je croyais que tu étais ma grand-tante. Mais non, c'est moi ta nounou. Il était triste parce qu'il pensait que tous ses amis avaient une nounou et qu'il était le seul à ne pas en voir. Je lui ai dit « Je ne suis pas ta grand-tante, je suis ta nounou. » Ah, je ne savais pas.
Ah, est-ce que ça ne me le savait?
Une des choses qui me paraît spécialement intéressante avec cette génération de femmes qui ont 50 ans et plus et qui travaillent ici en Espagne dans des familles, c'est que la plupart ne sont pas sur Facebook, ne sont pas sur les médias sociaux. Et finalement, c'est des femmes qui vivent encore la distance comme on la vivait il y a 30 ans. Elles ne parlent pas tous les jours à leurs enfants, elles ne sont pas sur WhatsApp. Et voilà, ça crée un autre rapport à la distance que des gens beaucoup plus jeunes et qui finalement sont en permanence connectés avec leurs enfants ou leurs proches. Dire aussi que pour beaucoup, c'est une vraie souffrance de quitter une maison, c'est comme quitter une famille. Elles cherchent ici en Espagne des lieux où s'attacher, où essayer de compenser tout le manque affectif, toute la souffrance de la distance et que quand un travail se termine, outre le fait de plus gagner d'argent et de plus avoir de logement, il y a aussi le fait d'essayer de retrouver ailleurs d'autres racines et puis voilà, de vivre une vie où on vient un peu attaché aux gens avec qui on vit.
Yo veo todo el día y toda la noche.
Moi, toute la journée et toute la nuit, je suis dans mon pays. Je ne vis jamais en Espagne. Je vis dans mon pays 24 heures par jour. Mais tout est mental, tout est là-dedans. Parfois, pendant que je nettoie, je suis au Paraguay. J'attrape un livre et je lis. Par exemple, je trouve une encyclopédie de l'Amérique et la première chose que je fais, c'est regarder ce qu'ils disent de Paraguay. C'est pour ça que je dis que je ne vis pas ici. Et si je rêve de mon pays.
Une des choses, moi, qui me touche particulièrement dans ces témoignages, c'est la capacité, je trouve, que toutes ces femmes ont à formuler ce qu'elles vivent et à formuler des choses sur lesquelles je trouve ça, moi, en tout cas, difficile de mettre des mots. À force de les écouter, je me suis dit qu'elles passaient tellement d'heures seules, qu'elles avaient tellement de temps pour penser, que elles étaient arrivées à ce stade, à cette capacité de dire. Et du coup, il y a une sorte d'immense maturité, d'immense honnêteté intellectuelle, affective, qui, moi, me paraît, j'espère en tout cas, ressortira dans le film. Un aspect qui est intéressant, c'est qu'évidemment, on croit au début qu'on part pour arrêter de vivre. En tout cas, il y en a plusieurs qui le formulent comme ça. Et naturellement, cette expérience tellement radicale transforme, change et c'est en tout cas une autre vie qui s'installe. Je vous laisse écouter Myriam qui a 30 ans et qui dit comment le fait de devenir interna l'a transformée.
Yo era como muy romántica, muy sensible, muy llorona. Y me he vuelto dura.
Moi, j'étais très romantique, sensible, pleurnicha. Je suis devenue dure. Je suis très différente. Parfois, mes amis me disent « T'es devenue espagnole, insensible. » Avant, quand je voyais quelqu'un mendier, ça me fendait le cœur. Je donnais à tout le monde. Maintenant, je ne le vois même plus. Je lutte contre la vie. Je crois que je suis devenue dure, insensible, râleuse. Et je lutte contre ça parce que je ne vais pas. C'est pour ça que je vais tenir autant que possible. je vais rentrer dans mon pays, chez moi.
Passer des années à faire ce que quelqu'un d'autre nous demande de faire, à vivre chez des gens en sachant qu'on a un espace à soi, mais qu'on n'est pas non plus chez soi, visiblement, ça laisse évidemment des traces. Je vous laisse écouter Juanita.
Beaucoup de gens qui ont eu cette expérience m'ont dit que c'était très difficile de revenir à liberté après avoir vécu ainsi. Il paraît que ça fait peur, que tu n'es plus capable de décider. Après une période où on te disait quoi faire, tu te dis « Et maintenant, qu'est-ce que je fais ?»
Voilà, peut-être ce que dit Juanita, finalement, ça ouvre le thème du retour. Le jour où tout ça se termine, il y a une autre femme, Rosa, qui m'avait raconté que quand elle est rentrée dans son pays, eh bien, son mari était sûr qu'elle avait laissé un homme en Espagne parce qu'il la voyait tellement triste, tellement malheureuse d'être rentrée, qu'il ne comprenait pas comment elle pouvait être aussi triste d'être à nouveau auprès de son mari et auprès de ses enfants. Et c'est peut-être justement le fait de se réhabituer à la liberté, le fait de se réhabituer à avoir ses proches autour de soi et ne plus vivre dans un imaginaire dans lequel on les imagine. Voilà. Mais le plus important, selon moi, pour qu'un film, en tout cas, ait une raison d'exister, c'est que la nécessité de faire le film du réalisateur puisse, si le sujet le justifie, être partagé par les gens qui seront dans le film. Et moi, j'ai senti une vraie nécessité pour plusieurs de ces femmes d'être dans un film. Et voilà, ce qui me donne l'espoir qu'en tout cas, ce film va exister, puis surtout qu'il aura une raison d'exister, et puis que ce travail a un sens. Il reste encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire.
Mouvement et traces. Vanessa Rousselot, avec à la technique Anna Porras et Jesús Cabez. Autre mouvement de population que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui avec Brigitte Castagno, agent immobilier de la côte alicantine, l'afflux d'acheteurs nord-africains.
En fait, vous parlez de pays du Maghreb, mais moi je dirais que c'est pratiquement seulement les Algériens qui, parmi les pays du Maghreb, achètent ici. Parce que l'Algérie, en fait, est un pays dont le niveau de vie est, disons, le plus élevé, je pense, dans les pays du Maghreb. Les gens ont les moyens, il y a une partie de la population qui a des moyens financiers qui leur permettent d'acheter ici, étant donné que les prix maintenant en Espagne avec la crise sont devenus très, très intéressants. Et d'après mes clients algériens, serait même peut-être moins cher encore que sur la côte algérienne. C'est l'impression que moi, j'ai ressentie en parlant avec eux.
Ils cherchent des... Alors, quel type de propriété ils cherchent? Ce sont des appartements, ce sont plutôt des studios en bord de mer, ou alors ils passent maintenant à des petits pavillons en zone résidentielle?
Écoutez, la recherche se fait surtout comme critère. Le premier critère, c'est le montant de l'investissement que ces gens-là désirent faire. Alors, comme montant d'investissement, nous parlons entre 60 000 et 80 000 euros. Et les clients algériens particulièrement recherchent deux choses. Ils aiment beaucoup la proximité de la mer, mais aussi la proximité de la ville. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les emmener à 5 ou 10 kilomètres en dehors de la côte, si vous voulez. C'est vraiment l'ambiance urbaine avec tout ce que ça comporte au point de vue loisirs et au point de vue service, et la proximité de la mer.
Et des commerces.
Et des commerces et aussi des loisirs.
Et donc, ce sont plutôt des appartements urbains qu'ils recherchent.
Alors, appartements urbains, mais aussi, enfin là où je suis à Torrevieja, il y a la possibilité d'avoir des appartements urbains, mais à la fois près de la mer, la mer à pied. Les plages à pied, les plages à 10 minutes à pied, si vous voulez.
Oui. Et comment les Espagnols résidant dans ces zones, qui sont déjà propriétaires, etc., accueillent ces nouveaux venus ?
Ben, écoutez, ils les accueillent, je dirais, les bras ouverts, parce que l'Espagne, et surtout la côte espagnole, a toujours été fort cosmopolite. Et nous avons des ressortissants européens, des ressortissants communautaires et à la fois non communautaires, et ces gens-là sont les bienvenus.
Les clients algériens ont conscience qu'après, il y a des charges de communauté à payer, qu'il y a peut-être aussi des impôts à... Je ne sais pas comment... Des impôts à payer, tout ça, ça, ils l'assument.
Oui, ils l'assument parce que chez eux, c'est la même chose. Quand vous achetez un appartement... Vous avez toujours des frais de syndic, c'est-à-dire qu'il y a des ascenseurs, bien sûr, il y a une maintenance, il y a la propreté, des choses à assumer, des frais comme ça à assumer. Et en fait, c'est notre travail à nous, comme agents immobiliers, de bien les informer, c'est-à-dire de leur donner exactement les frais de syndic qu'ils vont payer, la taxe foncière qui leur sera demandé chaque année par la mairie où ils ont acheté. Il n'y a pas de taxe d'habitation en Espagne, si vous voulez. Et c'est vraiment à nous de les informer et de leur dire exactement ce qu'ils auront à payer.
Alors, une petite curiosité.
Oui.
Je suppose que vos clients sont de conditions socio-économiques et culturelles différentes. Mais en général, qui est déterminant dans le choix ? C'est monsieur ou madame ?
Selon la façon de procéder pour l'achat, en général, nous avons affaire d'abord à un niveau socio-économique et culturel élevé. C'est-à-dire que les Algériens qui nous achètent, si vous voulez, sont... j'ai eu des géologues, j'ai eu des médecins, j'ai eu des ingénieurs, des propriétaires d'hôtels. Vous voyez, c'est vraiment
oui.
Un segment, disons, assez élevé de la société qui peut se permettre d'acheter comme ça un bien de vacances. Alors, en général, je rencontre des clients après une première prise de contact sur Internet. Internet est vraiment la façon de rentrer en contact avec les agences immobilières dans notre région, de la part des Algériens. Ce phénomène a commencé il y a à peu près un an et demi, deux ans. C'est un phénomène qui au début a paru un peu surprenant, si vous voulez, parce que c'était un marché qui normalement n'avait jamais acheté ici, ne s'était jamais intéressé pour les biens en Espagne. Et en fait, bien sûr, notre travail, c'est de répondre à ces demandes d'information. Et petit à petit, on s'est rendu compte que effectivement, il y avait un marché certain, il y avait un marché d'Algériens achetant dans notre région. Et nous avons affaire souvent avec le monsieur qui vient voir. Il vient souvent voir seul. C'est souvent quelqu'un qui a un visa Schengen, qui a souvent des relations commerciales, économiques avec le reste des pays d'Europe et qui profite de sa venue en Europe et de son visa Schengen pour se déplacer et venir voir ici les biens que nous pouvons lui proposer.
Donc le premier contact, c'est monsieur qui le fait.
Ah oui, et c'est la décision est quelquefois prise d'ailleurs par monsieur lui-même.
Ah d'accord. Et ils sont rapides pour se décider ou ce sont des clients qui traînent, qui...
Ah non, je vous dis, ce sont des clients charmants, ce sont des clients qui sont de décision rapide. Je pense aussi que c'est dû au fait, au niveau socio-économique élevé, au fait que nous avons affaire à des entrepreneurs, des gens d'affaires, vous voyez, qui prennent leurs décisions rapidement. Ce sont des clients sérieux. Ce sont des clients reconnaissants qui sont vraiment charmants parce qu'ils vous reconnaissent le travail que vous faites et l'aide que vous leur apportez. Ce sont des clients aussi qui vous recommandent à leurs amis et leurs connaissances. Ça fait un petit peu boule de neige parce que c'est pas évident non plus en Espagne de trouver des agences immobilières qui parlent français.
Absolument.
Vous avez beaucoup de gens, tout le monde parle anglais ici, mais français c'est plus restreint.
C'est quand même curieux que l'Algérie soit le seul pays francophone non participant de la francophonie officielle et qu'il soit en train de relancer pratiquement l'usage du français dans le Levant.
C'est vrai.
Ça l'enlève après.
Des choses comme ça, mais vous avez raison. Vous avez raison. Mais comme je vous dis, ce sont des clients de décision rapide. Ils savent ce qu'ils veulent. Ce sont des clients sérieux, ne font absolument pas perdre le temps des agents immobiliers. De toute façon, le temps, ils n'en ont pas eux non plus beaucoup, donc ils voient très bien les choses comme elles sont et en leur montrant 5-6 biens, c'est suffisant, ils prennent leur décision et l'affaire se fait.
Bien, alors bien sûr, le Levant est la région la plus sollicitée pour des raisons évidentes de proximité, de communication aussi, puisqu'il y a des vols réguliers, il y a des traversées par bateau aussi régulières.
Oui, il y a le ferry.
Absolument.
Oui.
Mais quelle ville, quel noyau urbain il cherche en priorité? Est-ce que c'est le chef-lieu Alicante ou alors ils sont partants aussi pour des petites localités?
Je pense que leur intérêt se dirige sur 3 localités. Alors vous avez Alicante, vous avez Benidorm et puis vous avez là où je suis, Torrevieja. Benidorm, si vous voulez, est à 5 km. C'est une cinquantaine de kilomètres au nord d'Alicante et Torrevieja, une cinquantaine de kilomètres au sud. Alors, Benidorm et Alicante sont peut-être plus recherchés au départ, étant plus connus.
Oui.
Mais les prix de l'immobilier sont nettement plus élevés que Torrevieja et les environs de Torrevieja. Donc, quand la comparaison se fait, l'idée de d'abord acheter à Benidorm, parce que tout le monde connaît Benidorm, c'est un peu la capitale touristique de la Costa Blanca, les prix étant, je dirais, le double ou même peut-être plus du double, fait que les gens se rabattent sur Torrevieja. Et ils se rabattent sur Torrevieja parce qu'ils se rendent compte aussi qu'avec 100 000 habitants résidents toute l'année, Torrevieja leur offre suffisamment de loisirs. Parce que ce que les clients recherchent, c'est d'abord un bon investissement, un pied-à-terre sur la côte espagnole, et aussi la question loisir est très importante pour eux. Loisir, je parle loisir, par exemple, les centres commerciaux, vous voyez le genre mall, le genre centre commercial américain, avec beaucoup de boutiques différentes, aussi cinéma, les jeux pour enfants, toutes ces choses-là, parce que notre acheteur a en général entre 35-40 ans jusqu'à 50-55 ans. Ce sont des familles, ils ont des enfants, et ces enfants aiment bien aller faire un bowling, vous voyez. Aller à la foire au manège, s'ils sont plus petits, aller aux aquaparks, faire des courses, il y a plusieurs carrefours, enfin je ne veux pas citer non plus de noms, mais nous avons beaucoup de chaînes commerciales, importante et tout ça attire beaucoup le client algérien.
Moi, en revanche, je vais citer le nom de votre agence, qui est l'agence Remax. Et c'est une agence qui est implantée un peu partout en Espagne. Est-ce que dans d'autres régions d'Espagne, ils sont en train de noter un afflux, peut-être pas aussi important qu'au Levant, mais de clients potentiels de la même région d'Algérie?
De clients algériens? Oui. Je ne crois pas, Imane, je ne crois pas.
Parce que la proximité réellement joue beaucoup votre...
Ah oui. Je crois que les facteurs les plus importants sont les facilités de communication, le ferry Oran-Alicante, les vols Alger-Alicante aussi. Ça, c'est les facilités de communication et les prix. Oui, vous savez, dans notre région, la crise espagnole a été très dure, la crise immobilière a été très dure. Enfin, le malheur des uns fait le bonheur des autres, c'est-à-dire que les prix ont baissé de 45 à 50%. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et comme ce que me disent mes clients algériens, c'est moins cher d'acheter ici que d'acheter en Algérie. Et il y a aussi, je pense, je ne sais pas si c'est aussi une mode ou un goût, si vous voulez, c'est peut-être aussi quelque chose un petit peu exotique d'acheter à l'étranger. C'est un peu différent pour des vacances un peu différentes.
Amis auditeurs, notre rencontre arrive à sa fin ce soir, mais ce n'est bien sûr qu'un au revoir. Rendez-vous est pris la semaine prochaine. Ce programme vous a été proposé comme toutes les semaines par Imen Wenzar avec René Siscandela à la réalisation.